Muratore. J'avais un professeur bien droit dans son complet, avec des pieds et des mains pour nous apprendre la grammaire. Il avait, quant à notre devenir, de sérieux doutes. Et, plutôt que de nous donner le bénéfice salvateur, il tuait sans notre merci les bonnes volontés dans l'œuf. Ses propos cinglants, méchants à l'envi, nous incitaient au silence. Du coup, nous ne portions que peu d'intérêt à ses cours et attendions la fin. Quand la sonnerie libératrice retentissait pour offrir à nos cris de prépubères une existence bien légitime, nous respirions enfin, libérés du joug tyrannique. Hilar sans autre raison que le sens d'exister, bouche ouverte comme après une longue apnée. Avant que le psychorigide ne nous fasse la classe pour calmer ses douleurs et ses frustrations, comme tous les ados, nous chahutions un peu. Nous prenions nos aises en brassant de l'air, en sentant notre souffle vif. Mais dès qu'il apparaissait, le silence se faisait. Car nous le craignions. Nous nous engaussions, mais nous le craignions. Nous nous rangions sages, résignés, attendant dès le début la fin de ce cours où nous savions qu'il choisirait l'un d'entre nous sous le prétexte d'une de ses erreurs et en ferait son souffre-douleur pour l'heure. Nous nous rangions jusqu'au jour où, mu par je ne sais quel ressort, j'attendis le dernier moment pour juguler mon trop-plein d'énergie. Il me toisa de si près que je crus avoir une morsure. Il soupira et je sentis la brûlure de son souffle, son haleine de rat crevé, une vision grand-angle sur ses dents mal alignées. Le passant d'une tête, j'avais une vue privilégiée sur sa calvitie, ses cheveux épais, gras, ses pellicules, ce qui semblait être un psoriasis. En temps normal, je m'en serais amusée, mais là, j'étais terrorisée. Un petit enfant prêt à verser d'abondantes larmes face au danger. Il le savait, s'en repaissait. Sa moue devint méprisante, sa bouche sphincter. Après quelques secondes, qui me parurent éternelles quand je fus crucifié à son goût, il persifla en me crachant un de ses molars déguisés en phrases. « C'est un métier manuel qu'il vous faut. » Puis il ajouta tout sourire. « La maçonnerie a besoin de bras pour les basses besognes. » Et ce consuffisant eut même droit au rire de quelques élèves qui ne m'aimaient pas ou qui craignaient sa ire. Et moi, innocent que j'étais, qui ignorais qu'un usage de mes mains, fût-il utile, ne susciterait que dédain, par extension, il fut acquis que tous ces métiers qui me tentaient, eh bien, je ne pourrais les exercer sans le mépris des beaux esprits. Ce fut ma première révélation d'importance. En quelques mots fielleux, attitude hautaine, j'appris la distance entre les uns et les autres. Je compris toutes ces notions qui se glissent dans nos vies. Les races et les sortes d'eux, les forts et les faibles, la dualité et sa copine, la compétition. J'appris qu'un monde nécessaire se devait d'être dans les niveaux, que l'égalité n'était qu'un droit de papier et sa pratique était très éloignée des réalités. Mais n'est-ce pas le rôle d'un professeur que d'apprendre ? À cette époque, même si je le pressentais, je ne savais pas qu'un ramassis de trous du cul bardés de diplômes en guise d'armure pensait rien que pour nous, les humbles. Pensée universelle, unilatérale, indiscutable qui prend racine à l'ombre de théories plates qui s'appliquent sans qu'elles s'expliquent. À cette époque, je n'avais pas encore rencontré ces gens de parole, aux idées courageuses et aux actes vils ou intéressés. Ces gens qui reculent devant l'action parce qu'elle salit les mains. Ces gens qui se protègent en prenant refuge au creux de dogmes conservateurs pour pouvoir dormir un juste sommeil. À cette époque, je ne savais pas que les sous-fifres de la culture pouvaient être exaspérants, insupportables, qu'ils donnaient à la pensée l'apparence d'une petite merde dans une couche culotte. À cette époque, d'espérance folle que le premier des cons avait pu foutre en l'air. À cette époque, à cause de cet abruti, j'ai détesté les études comme les enseignants. Tout ceci aurait pu m'être fatal pour exercer ma supériorité. Une étudiante qui devint enseignante par la suite me fit changer d'avis. En me donnant la bonne image, en tout cas celle que je garderai. J'ai épousé la belle pour la vie. Enfin presque. Je suis donc devenu un être infatué qui, après s'être égaré sur des chemins libertaires, égalitaires, totalitaires, préliminaires, est retourné dans son moule. Le destin en somme. Cette inclinaison à ne rien changer pour que nos pères, nos pères, soient satisfaits. Ne nous déshérite pas et nous fasse profiter du carnet d'adresses. Et là, je dois dire que, pour ressembler à ce qui coulait de source, pour égaler la cruauté, le mépris, la suffisance des meilleurs, je n'ai pas ménagé mes efforts. Le sous-fifre qui m'enseignait la grammaire serait fier de moi. Je suis bien plus méchant, je l'ai surpassé. Hélène se prépare. Je dois vivre encore avec elle quelques mois pour convenance personnelle. Mais si elle pouvait se fracasser la gueule en tombant dans l'escalier, se faire écraser par un bus, agresser par une bande de voyous sans foi ni loi, je ne dirais pas non. Elle me gonfle, mémé Bigoudi. Vous reprendrez bien de nouvelles pantoufles. Depuis des années, elle enseigne et se sent investie d'une mission. Rien d'autre ne compte pour elle. J'en ai un peu marre. Même si je ne suis guère plus intéressant comme mec, j'en ai marre. Il va falloir que je la tue pour me libérer, vivre une vie de patachon avec plein de putes à vieux cochons. À ce soir, Richard. Bonne journée, ma chère femme. Ma pensée criminelle ne m'a pas quittée de la nuit. J'en tremble encore de plaisir. Ça décuple mon envie de l'assassiner. J'y vois l'ordre des choses. Un franchissement, une étape, de nouvelles sensations. Le plaisir de hurler ma haine, de la joie et de la bonne humeur sous des cris ébahis, sous des yeux écarquillés par la surprise du chef. Hélène ne se doute de rien. Je suis tellement attentionnée que la simple idée de me voir brandir un couteau à désosser pour la larder ne doit pas lui être venue. Enfin, je crois. Quoiqu'avec les proches, on ne sait jamais, dit-on. Il faut bien comprendre que mes choix sont limités. Je dois la tuer ou bien me tuer. Et comme je m'aime encore, je sens déjà l'odeur de son sang, un fumet pour le printemps qui s'annonce. Je vois une constellation d'éclaboussures comme autant de roses rouges. Je vois un nouveau départ enchanteur. La bonne saison arrive avec ses signes précurseurs. Les jours traînent en longueur. Les poumons de ma voisine pigeonnent. Les moules fesses sont sorties. Les moules bites aussi. La libido a le goût du caniveau. Tout devient un peu plus crado, mais personne ne s'en offusque. Comme je suis réaliste, je dois penser à mon avenir, jouer plus serré, ne pas me faire jeter en prison où je ne me sens pas d'attache, pas d'affinité avec les gens qu'on y parque. Garder sa vie n'est pas une mince affaire. Quoi qu'il en soit, je l'aurai un jour. Évidemment, je ne la tuerai pas. Nous vivrons notre colocation jusqu'au bout en donnant le change pour préserver nos intérêts et notre tranquillité. Le changement est l'arme des princes et je n'ai vraiment pas, mais vraiment pas de chez pas, la moindre petite hauteur de vue pour en devenir un. L'aristocratie ne s'improvise pas, ne se transmet pas, ignore les particules. Elle demande d'abord de la grandeur, de la noblesse, de la détermination et surtout du désintéressement. Mon exact contraire. Vautré sur son Chesterfield, un verre de bourbon à la main, un gros cigare aux lèvres, mon père me disait toujours, en se grattant discrètement l'entrejambe, comme chaque fois après sa pipe domestique, « Vois-tu, mon fils, nous sommes tous des moutons. Seule la tonte et la manière d'être soulagée de nos pesanteurs nous différencient. » Je n'ai jamais pu blairer cette enflure. Même enfant, je ne l'aimais pas car je voyais bien en lui le fourbe et l'indifférent. Mais je l'admirais. Presque personne n'échappe à cette sensation avec ses géniteurs. J'admirais pour ma part le promoteur de caisses en béton sonore, riche, écouté de tous. J'admirais le distributeur de bons becs, de cadeaux multiples dernier cri. Mais son absence totale d'affection pour ses enfants me bloquait le sentiment. Un peu plus tard, avec ma petite sœur, nous l'avons détesté. Maintenant que je suis grand, que je lui suis devenu supérieur en tout ou presque, je n'ai plus rien de positif à éprouver. Le confini ne m'impressionne plus. Ni ses théories de comptoir pour se donner bonne conscience, du style « les hommes sont faits pour vivre ensemble, je ne fais que répondre à leur instinct grégaire, la proximité les rassure, je n'y peux pas grand-chose. » Ni ses largesses puisque je suis plus fortunée que lui. Et ça, il ne le sait toujours pas. Adolescent, je traînais souvent sur les chantiers paternels, riche en trésors, surprises, personnages d'une autre dimension. Je voyais ainsi les autres, et les dédaignés du père m'attiraient. Logique. J'appris vite que le milieu fait l'homme et qu'il se laisse émasculer par son environnement. ces rudes gaillards me parlaient cul sans détour. Pas d'histoire de bagnole, de voyage ou de livres qu'ils n'avaient pas lus. Du cul que du cul, rien que du cul et toutes les plaisanteries qui s'y rattachaient. Ils communiaient ainsi, rire en oubliant sa condition. Faire l'homme pour se mentir, garder un peu de dignité. Si vous saviez à quel point vos grands chefs en manquent de dignité, vous ne vous donneriez pas tout ce mal. Moi, les premiers poils en bataille, je me nourrissais. Attentif aux exploits de ces rudes gaillards, parfois brutaux, barbares et parfois poètes, la pupille rêveuse, les mirettes en bulles de champagne. La plupart se vantaient, mais je sentais bien qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits. Épuisés par de longues journées, accueillis par mémé confiture tout aussi épuisés, ils se vautraient dans leur couche pour dormir, rien que pour dormir. Pedro, demeuré célibataire, vivait la chose autrement. Adepte de l'onanisme, il s'en faisait le laudateur. Dans un français mal branlé, il me prodiguait ses purs conseils. Et j'écoutais ravi, étant moi-même pratiquant assidu de base. « Une bonne branlette, c'est la liberté du citoyen, disait-il, en substance. » Il m'énumérait alors les avantages. Le choix du lieu, le ou les partenaires imaginaires, la durée, la sécurité, car de nos jours, il faut se méfier des maladies, et surtout l'aspect pratique. C'est vrai qu'un lavabo, une cuvette de chiottes ou plus simplement la terre prennent sans protester. En tout cas, Pedro se disait satisfait. Moi, plutôt rassuré, en dépit de ce qui se disait dans les milieux autorisés. La pratique était courante et je n'irai pas en enfer. Bref, Pedro me donna un coup de main, les bases et les fondements du plaisir solitaire. Tout ceci peut paraître un peu glauque, par trop simplifié, mais que pouvais-je attendre d'autre venant d'un maçon ?